France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard et Antoinette Benoît. Réalisée par Cassandre Puel et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde et qui se sera co-animé aujourd'hui avec Marion Dupont. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et bienvenue. Nous reviendrons ensemble sur les enjeux de la baisse des cours du pétrole provoquée notamment par la décision de l'OPEP d'augmenter les volumes de production. Est-ce le retour de la guerre des prix et qui en profitera? Nous en discuterons avec nos invités Mathieu Ozano, directeur du think tank The Shift Project, et avec Emmanuel H, directeur de recherche à l'IRIS. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Guillaume Perrier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service international du journal Le Point. Vos deux derniers reportages nous emmènent dans les mines du Nord Kivu, cette province de la République démocratique du Congo, ravagée depuis des années par les conflits armés et où la guerre a pris une nouvelle tournure depuis la prise de Goma en janvier dernier. La rébellion armée soutenue par le Rwanda contrôle un territoire qui s'étend désormais des rives du lac Édouard au nord jusqu'à Bukavu au sud, et c'est dans la mine de Rubaya que commence votre reportage. Nous sommes à 60 km de Goma. Il s'agit de l'un des plus grands sites d'extraction de coltan de la région. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Guillaume Perrier, à quoi ressemble cet immense site minier de Rubaya?
Alors effectivement, Rubaya, c'est une ville minière comme il en existe dans beaucoup d'endroits dans cette région du Congo. C'est la plus grande mine à ciel ouvert de coltan au monde, puisqu'on y produit à peu près 20% de la production mondiale de coltan. Le coltan, c'est la colombite tantalite. C'est une association de deux minerais rares qui servent notamment dans l'industrie aéronautique et dans l'électronique. Donc c'est utilisé par tout le monde, hein, pour son téléphone portable, son ordinateur, notamment pour la fabrication des écrans. Voilà, donc c'est une ressource extrêmement précieuse, extrêmement stratégique, que les rebelles du M23 dont les rebelles du M23 ont pris le contrôle un an à peu près avant la chute de Goma. Le contrôle de la mine de Rubaya a précédé celui de Goma, et sans doute qu'il y a un lien de cause à effet, puisque on estime que ça rapporte en taxes diverses à peu près 800 000 dollars par mois grâce aux exportations clandestines depuis cette mine vers le Rwanda.
Alors oui, justement, on va revenir sur ces enjeux stratégiques en lien avec la guerre dans cette région. Peut-être encore pour rester sur la mine, grâce aux photos de votre comparse Vivien dont le nom m'échappe, pardon, Vivien Latour. On voit ces collines défigurées par les terrassements à perte de vue. Vous l'avez dit, c'est une mine à ciel ouvert, mais il y a donc des puits qui s'engouffrent où s'engouffrent ce qu'on appelle les creuseurs.
Oui.
Jusqu'où ces puits descendent-ils sous terre?
Alors effectivement, c'est très visuel. Il faut imaginer des collines très vertes, puisque cette région est très arrosée, surtout en pleine saison des pluies, et donc le dessus des montagnes au-dessus de Rubaya est totalement pelé. Ça a été complètement déboisé pour ensuite être creusé. C'est-à-dire, dans cette région, de toute façon, dès qu'on creuse, on trouve du minerai, quel qu'il soit. Donc là, à cet endroit, il y a du manganèse, il y a de l'or, pas très loin, mais surtout donc ce coltan. Donc il faut imaginer des collines entièrement déboisées, blanchies, et dans lesquelles on a creusé une trentaine de puits. Alors moi, c'était la zone principale d'exploitation. Il y avait une trentaine de puits, donc c'est effectivement des trous, tout simplement, qui sont étayés à la va-vite par des morceaux de bois, des planches, etc., et qui peuvent descendre jusqu'à 70 mètres de profondeur. Donc, ces puits sont constitués d'une sorte d'escalier en bois, dans lesquels de jeunes mineurs, parce qu'il faut être plutôt menu, pas très grand, pas très large, pour pouvoir descendre dans ce boyau, et à peu près tous les 2 mètres, il y a donc un mineur, un creuseur, ce qu'ils appellent un creuseur, qui remonte des sacs de minerais en se les passant de la main à la main. Donc tout ça sans équipement, hein, évidemment. Les creuseurs n'ont ni masque, ni casque, ni protection contre quoi que ce soit. On est dans une poussière étouffante, vraiment asphyxiante. Moi, je suis descendu à quelques mètres. J'ose pas imaginer les conditions de travail tout au fond de cette mine. Donc, c'est évidemment extrêmement dangereux. Il y a des éboulements fréquents. Voilà, bon, c'est un travail de mineur.
Vous décrivez les bâches mises contre la pluie, les quelques tuyaux collés les uns aux autres pour amener de l'air jusqu'au fond du puits, cette extraction très artisanale. Qui sont ces creuseurs que vous dites très jeunes? Alors, et qu'elle a, enfin, quand vous dites très jeunes, justement, ce sont des adolescents? Est-ce que ce sont des enfants? Ce sont des mineurs?
C'est...
Et puis, d'où viennent-ils? Et combien sont-ils payés par jour?
Alors, c'est évidemment tout l'enjeu, hein, de savoir quel âge ils ont. Alors, le M23 qui contrôle aujourd'hui cette mine, et puis l'administration qui l'a mise en place, donc le bureau des mines qui est sous son contrôle, m'assure qu'il y a plus de mineurs, si je puis dire. Ça a été justement l'objet de beaucoup d'attention de leur part. Donc, un certain nombre de jeunes, sans doute trop jeunes, ont été écartés de ce travail. Moi, ce que j'ai vu, c'est évidemment, j'ai pas demandé les papiers d'identité aux gens qui creusaient dans ces trous. Ce que j'ai vu, c'était des adolescents, hein, qui pouvaient avoir 18 ans, qui pouvaient aussi en avoir 15 ou 16. Donc, c'est difficile de déterminer. Encore une fois, c'était pareil dans les mines du Pas-de-Calais au début du XXe siècle. Pour descendre dans un boyau sous terre, il faut être plutôt petit, mince et léger. Donc, ça explique aussi pourquoi on fait travailler de jeunes garçons dans ces mines. Je pense qu'effectivement, le travail des mineurs de moins de 18 ans se poursuit. Il n'y a pas de raison que ça se soit interrompu aussi brutalement. Maintenant, pour ce qui est des salaires, puisque vous me posez la question, le salaire tourne autour de $5 par jour pour ces travailleurs. Il faut savoir que ça a été augmenté récemment. C'était plutôt $2 ou $3 avant l'arrivée du M23. Donc, ça a été rehaussé. Ce que tout le monde me décrit, c'est plutôt des conditions de travail qui se sont améliorées, une sécurité qui s'est améliorée depuis que le M23 est dans la région. Il y a moins de pillages, il y a moins de rackets par les différentes milices qui se concurrencent pour le contrôle de cette région. Depuis qu'il y a une milice qui tient le territoire, les choses vont quand même beaucoup mieux à entendre, encore une fois, les gens qui travaillent.
À qui appartiennent les concessions et les puits des mines de la région? En particulier de celle-ci, de Roubaïa, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens qui possèdent un puits, deux puits? Est-ce que la concession fonctionne par la mine elle-même? Et comment ce système-là a-t-il ou pas été perturbé depuis l'arrivée du M23?
Alors, c'était des terres agricoles, hein, tout simplement, il y a encore 25 ans. Les paysans, souvent, ont vu qu'ils pouvaient gagner plus d'argent en revendant leurs terres à des exploitants miniers qu'en les cultivant. Donc, c'est ce qui s'est passé depuis 25 ans. À partir du moment où on a trouvé ces gisements. Moi, j'ai rencontré des exploitants qui étaient des petits fonctionnaires locaux, des petits commerçants qui ont racheté un puits, parfois deux, trois, et qui, de fil en aiguille, ont amélioré ainsi leurs conditions. Donc, c'est plutôt des locaux, des gens qui n'appartiennent pas forcément à une intelligentsia politique, qui se sont retrouvés à la tête de ces concessions, donc qui, effectivement, rapportent un peu d'argent. Je pense qu'il y a une partie qui part... en taxe pour la milice qui contrôle l'endroit. Donc aujourd'hui, c'est le M23. Avant, encore une fois, c'était beaucoup plus incertain parce qu'il y avait une concurrence entre tous ces groupes et tous les exploitants miniers se plaignaient d'être rackettés, pillés de leurs ressources. Donc
là, le M23, voilà. Dans votre reportage, vous expliquez, il impose une taxe de $7 par kilo de coltan qui sort de la mine, mais il organise aussi des permis d'excavation. Il supervise le transport. Est-ce que de facto le M23 administre, gère la mine de Roubaïa?
Oui, très clairement. Et voilà. Et quelque part, c'est encore une fois un progrès. Parce qu'avant, il y avait quand même une forme de racket et de pillage, mais qui n'était pas gérée, administrée de manière aussi efficace. Voilà. Donc, ils ont un petit peu rationalisé le processus, si je puis dire. Mais effectivement, ils en tirent profit.
Effectivement, les employés du bureau des mines, comme Patrice Gassouri, qui vous dit c'est pas pour défendre le M23, mais on produit davantage de depuis que la sécurité est revenue. Alors, se pose aussi la question de savoir où partent les revenus tirés du coltan. Le M23 est un groupe armé congolais qui est soutenu par le Rwanda. Et la RDC accuse le Rwanda d'exploiter à son profit les richesses des mines congolaises. Alors, vos interlocuteurs sur place vous expliquent que c'est pas la raison principale du conflit, qu'il y a bien d'autres racines géopolitiques, historiques, dont on a déjà parlé d'ailleurs ici à Culture Monde. Mais sur cette question aujourd'hui de l'exploitation de la richesse des mines, que sait-on de la part qui transite ou qui est captée par le Rwanda?
Alors, 100% part au Rwanda. Mmh. Mais l'explication est d'abord logistique. On se trouve dans l'est de la RDC, on est à 2500 km de Kinshasa. La République démocratique du Congo est un pays en faillite permanente, dans lequel il n'y a aucune infrastructure de transport ou de traitement de ces ressources minières. Donc la route logique et unique, elle est vers le Rwanda, même si cette route est quand même déjà en soi une aventure, hein, parce que les 60 kilomètres entre Goma et Rubaya, il faut entre 4 et 8 heures pour les parcourir, donc c'est quelque chose d'assez éprouvant. Le coltan donc est chargé dans d'immenses camions qu'on voit descendre de cette piste vers Goma. À Goma, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a des comptoirs hein, qui sont installés, avec notamment des négociants chinois qui sont très présents à cet endroit. Donc une partie est négociée directement à Goma par les grandes compagnies internationales. Une autre partie va effectivement vers le Rwanda, d'où il est exporté par l'aéroport de Kigali. Le Rwanda produit lui aussi du coltan, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda exporte plus qu'il ne produit. Donc on comprend bien qu'une partie de la production de RDC se retrouve en Rwanda. Ceci dit, ça n'est pas nécessairement le résultat d'un pillage ou d'une exploitation illégale. Encore une fois, pour des questions logistiques, les négociants sont obligés de se tourner vers le Rwanda.
Sauf que la RDC ne voit pas la couleur du profit ou des richesses qui sont tirées
effectivement,
de ces minerais.
Effectivement.
C'est pour ça qu'elle a déposé une plainte il y a un an à Paris et à Bruxelles contre les filiales de la firme, alors pour le coup des derniers récipiendaires du minerai, en l'occurrence la firme Apple, pour, je cite, blanchiment et recel de crimes de guerre.
C'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est pas une situation nouvelle. Je veux dire, le pillage des ressources minières en République démocratique du Congo, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui concerne effectivement cette frontière avec le Rwanda, mais aussi toutes les autres frontières. Hein. Moi, je m'étais rendu il y a 2 ans en Zambie, par exemple, pour travailler sur les mines de cuivre qui se trouvent à la frontière avec le Katanga. On a une situation qui est encore plus critique à cet endroit. Voilà, donc le pouvoir à Kinshasa aujourd'hui choisit de stigmatiser cet aspect-là pour accuser le Rwanda de tous les maux, parce qu'on a bien compris que c'était aussi la fabrication d'un ennemi pour renforcer son propre pouvoir. Mais, alors, je ne nie pas cette réalité, mais voilà, c'est une explication un peu rapide aussi pour expliquer ce conflit. Donc, c'est ça qui m'intéressait aussi de montrer en allant dans ces mines.
Et de faire la part des choses, et vous le disiez, on le lit dans vos reportages, beaucoup d'interlocuteurs vous expliquent que, selon eux, la présence aujourd'hui du M23 dans le territoire et sur les mines n'est pas motivée principalement par la question de l'exploitation des minerais. À Goma, où vous vous êtes rendu également, Guillaume Perrier, la ville commence à reprendre timidement de la couleur et de la vie, notamment au niveau économique, même si c'est encore très précaire. Et vous avez notamment constaté que sur le port lacustre du lac Kivu, les activités de transport ont repris. C'est une voie cruciale puisque elle permet une circulation vitale dans la région à défaut de pouvoir passer par les routes.
C'est ça, oui. Bah encore une fois, voilà, le manque d'infrastructures de transport, l'absence quasiment de route pour relier les deux grandes villes, donc Goma au nord Kivu et Bukavu au sud Kivu. La route principale, c'est par le lac. Donc il y a cette liaison par bateau qui se fait 3-4 fois par jour avec de gros ferries. Et donc c'est vrai que c'était intéressant de voir le redémarrage économique à travers ça, et puis notamment l'exportation des produits agricoles. Donc on voit des sacs de manioc, des bidons de lait. On voit l'activité reprendre, on voit que les gens recommencent à circuler entre ces deux grandes villes. On le voit aussi au redémarrage du commerce, de l'agriculture, des marchés. Enfin voilà, on sent que ça redémarre. tout ça est quand même empêché par une raison principale, c'est la fermeture des banques. Le souci principal des habitants aujourd'hui à Goma, c'est ça, c'est le fait de ne pas pouvoir toucher leur salaire. Les salaires sont bloqués dans les banques à cause des sanctions imposées par Kinshasa. Et donc, les gens sont obligés d'aller au Rwanda pour retirer de l'argent et revenir ensuite à Goma. Donc, c'est une situation assez compliquée qui fait que l'économie est vraiment dans une situation de paralysie quoi, en ce moment.
Et vous dites que le M23 tente de mettre en place un système bancaire alternatif pour pallier à ce blocage. À Goma, justement, vous rencontrez les autorités politiques du M23, l'Alliance Fleuve Congo, qui est dirigée par Corneille Nangaa. Quelles sont aujourd'hui les intentions militaires de l'Alliance Fleuve Congo / M23 dans la région? Est-ce qu'il s'agit vraiment, comme cela a été déclaré, de marcher à grands pas sur Kinshasa, je cite? Que savons-nous et que vous dit-il de ses intentions militaires?
Alors, Corneille Nangaa, effectivement, tient ce discours. Lui a pour objectif de libérer le Congo. Il faut rappeler quand même que c'est l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, qu'il estime être le responsable de cette situation, puisque c'est lui, à l'époque, qui avait validé l'élection de Félix Tshisekedi à la présidence congolaise, alors que cette élection avait été truqué d'une manière totalement caricaturale. Donc il explique lui-même, c'est moi qui ai fabriqué le monstre, maintenant c'est à moi de vous en débarrasser.
Il dit qu'il a validé cette élection sous pression militaire.
Oui, bien sûr. Oui, c'est ce qu'il raconte. Donc il a validé cette élection à la base pour assurer une forme de transition après le pouvoir de Kabila, et puis pour éviter l'arrivée au pouvoir de cet opposant qu'il estimait totalement incapable de remplir la fonction. Donc
l'objectif, c'est renverser Tshisekedi.
C'est ce qu'il affirme. Je pense que le M23 est plus pragmatique et plus réaliste que ça. Le M23 aujourd'hui est une force certes importante sur la carte congolaise, mais qui n'a pas forcément les moyens d'une telle opération militaire. Maintenant, on voit que c'est aussi une coalition, puisque Corneille Nangaa, le M23 est un groupe, comme vous le disiez, congolais, mais qui est composé de Tutsis, congolais, donc ce qui explique le soutien dont il bénéficie de la part du Rwanda. Corneille Nangaa est complètement extérieur à cette mouvance, et donc il y a une forme d'alliance. L'alliance Fleuve Congo, c'est ça. C'est une alliance qui est amenée peut-être à s'élargir. L'ancien président Kabila a aussi manifesté sa volonté de rejoindre cette coalition. Donc tout dépendra de l'ampleur de cette coalition et de leur capacité ensuite à éventuellement renverser l'actuel président.
Alors, en attendant de savoir quelle sera la suite de l'expansion ou pas du groupe M23 sur le territoire congolais, sur les territoires qu'ils contrôlent, ce qui est certain, c'est qu'ils ont l'intention de rester, voire de se substituer aux autorités locales. À quoi l'avez-vous noté, remarqué sur le terrain?
Oui, alors c'est déjà largement le cas. Alors, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le M23 n'a pas de velléité séparatiste. Ils n'ont pas installé leurs propres emblèmes, leurs propres drapeaux. C'est pas une république du M23. Ils sont vraiment dans l'optique de contrôler le Congo et de commencer la révolution, comme ils disent, depuis Goma. Voilà. Donc, mais effectivement, ils ont installé leur propre administration. Alors, à quoi on le voit? C'est très simple. Moi, pour me rendre compte un petit peu justement de ce qui s'était passé depuis la prise de pouvoir de janvier, je suis allé dans les écoles. Les écoles primaires, c'est un bon moyen de voir quelle partie de la population est partie, quelle partie est restée. Donc, on voit qu'il y a à peu près 20% des élèves qui ne sont pas revenus depuis les heures de janvier. Donc ça veut dire qu'à peu près 20% de la population a quitté Goma à la suite de cette prise de contrôle du M23, et que donc ça représente la part à peu près des gens qui étaient, proches du régime de Kinshasa et donc dépendants de cette administration. Ceux-là ont été remplacés par des gens loyaux au M23, évidemment, et il y en a beaucoup qui vivaient à Goma, donc à peu près 80%, qui s'accommodent ou qui se satisfont de cette situation. Donc on a une administration qui est aujourd'hui plutôt favorable au M23, effectivement.
Et qui commence à mettre en place son propre système d'impôts, de douanes. Il s'agit aussi de restaurer une police, une armée, et vous vous dites, une armée qui se construit sur le modèle de l'armée patriotique rwandaise. On n'a plus le temps de développer, mais je mentionne ce point-là et j'invite les auditeurs à lire plus en détail vos reportages, Guillaume Perrier, avec les photos accompagnées de Vivien Latour. C'est à lire sur le site du journal Le Point. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Giza imetawala fasi yote, oga umeshika kila mutu. Mauaji yametawala fasi yote, wengine wanakosa makao, wengine wanapoteza wazazi wao, wengine wanapoteza watoto wao. Sango ya bitumba na Kongo, efe singa mawa na kolela. Sisi ni watoto wa baba moja, kwa nini twauana wakati wote? Tuombeane, tusaidiane, tushikane kwa mkono, ili mauaji yaishe. Tuombeane, tusaidiane, tushikane kwa mkono, ili mauaji yaishe. Sisi ni watoto wa baba moja, kwa nini twauana wakati wote? Tuombeane, tusaidiane, tushikane kwa mkono, ili mauaji yaishe. Tuombeane, tusaidiane, tushikane kwa mkono, ili mauaji yaishe. Tala moninga bungisi nde kona ye, a cause de la guerre mawa. Ee Mungu tusikilie huruma, amani ya kweli inatoka kwako.
Umjoa signifie unité en swahili et c'est aussi un titre de cette chanson de 2023 de l'artiste congolais Ben Man, originaire de Goma. Vous écoutez Culture Monde, c'est la seconde partie de l'émission. On parle de pétrole, de guerre des prix et de l'OPEP.